payer en liquide, ce geste appartiendra-t-il bientôt au passé ? La Banque Centrale Européenne a fait savoir début novembre qu'elle souhaitait accélérer la mise en place de l'euro dit « numérique ». Et c'est Christine Lagarde en personne qui en fait la promotion.
The digital euro is on the move. Cash or digital, the choice will be yours. Your euro, your choice.
En plus de son portefeuille, chaque Européen pourra à terme avoir des euros numériques utilisables via une application téléchargée sur son téléphone portable. Objectif affiché, faciliter les paiements à l'échelle européenne. Aujourd'hui, dans l'Union européenne, seuls 42% des transactions se font en liquide. Mais c'est une moyenne. La France comme l'Allemagne font partie des pays attachés encore aux liquidités.
C'est plus simple de gérer son budget avec de l'argent liquide. Carte bleue, on explose vite son compte en banque.
Je suis plus sûre aussi d'avoir de l'argent sur moi. Il peut arriver quelque chose, la carte ne fonctionne pas.
La dématérialisation grandissante des transactions ainsi que l'arrivée annoncée de l'euro numérique suscitent la méfiance de certains, notamment au sujet de l'anonymat des transactions et des achats.
Donc là, ça veut dire que la BCE pourrait regarder tous vos mouvements d'actifs, tous vos mouvements potentiellement.
Oui. Évidemment, les projets ne le diront jamais. Même la Banque centrale de Chine, qui pourtant le fait en grande partie, ne le dit pas complètement. Elle dit qu'elle fait de managed anonymity, donc de l'anonymat géré, si vous voulez. Mais en principe, c'est un risque, c'est un sujet de débat.
La phase de lancement de la monnaie numérique ne devrait démarrer qu'à partir de 2025. Alors, les autorités européennes cherchent-elles à nous préparer psychologiquement à l'arrivée de cette nouvelle façon de payer ? La dématérialisation grandissante des transactions n'a-t-elle que des avantages ? L'argent liquide est-il amené, à terme, à disparaître ?
Je perçois, oui, qu'il y a vraiment une accélération. Ça baissait doucement et le moment du Covid a rendu ce paiement dématérialisé encore plus facile qu'il n'était. Et ce qu'on voit dans les usages de l'argent, c'est que il y a des habitudes qui se prennent. Et donc aujourd'hui, on a pris l'habitude soit de payer en carte, soit aussi d'utiliser son téléphone pour payer. Et là, on n'a même plus de plafond parce qu'avec le téléphone, on a sa carte bleue dans son téléphone.
On met sa carte bleue dans son téléphone.
Et donc, on s'aperçoit et les chiffres vraiment vont tous dans ce sens de micro-paiements qui sont de plus en plus des paiements en argent dématérialisé. Ce qui n'empêche que, vous le dites, c'est encore 50% des paiements pour les petites sommes qui sont en argent liquide. Et en fait, quand on regarde les paiements, on a certes 50% pour le nombre de transactions qu'on fait. Par contre, si on regarde la valeur, quand les valeurs sont plus importantes, là, c'est de l'argent dématérialisé.
Oui, plus les sommes sont importantes, plus c'est avec de l'argent dématérialisé.
Oui, donc c'est aussi pour les petites sommes. Mais de plus en plus de gens n'ont plus de liquide sur eux.
Oui, c'est ça.
N'ont plus ni pièces, ni billets. Et on est aujourd'hui en mesure de vivre une vie quotidienne tout à fait normale sans avoir d'argent liquide.
Alors, déjà une différence qui est très claire, c'est que l'euro numérique, il est attaché à une banque centrale et pas à des banques privées.
D'accord.
Donc en fait, si vous voulez, quand vous avez un compte bancaire, si votre établissement bancaire fait faillite, vous pouvez perdre l'argent sur votre compte. Si vous avez un billet dans votre poche, votre billet ne disparaîtra pas. Et ben, ça sera pareil avec l'euro numérique, ça sera une forme de monnaie sûre puisque rattachée directement à la banque centrale.
Donc, une banque centrale peut faire faillite aussi.
Une banque centrale ne peut pas faire faillite, non. Une banque centrale, sa particularité, c'est qu'elle est l'émettrice suprême de la liquidité et donc elle ne peut jamais faire faillite. Faillite. On peut lui reprocher de créer trop de monnaie, mais elle ne peut pas faire faillite.
Et donc, et la forme, enfin, ça sera quoi ? Sur le téléphone ?
Alors la forme, ça peut prendre différentes formes. Ça peut être en effet une application sur le téléphone. Mais,
et pour ceux qui n'ont pas de téléphone intelligent,
justement, ceux qui réfléchissent à l'euro numérique se disent que pour les populations qui ne sont pas habituées au numérique, il faudrait avoir d'autres systèmes. Donc on pourrait aussi avoir des petites cartes, par exemple, qu'on irait chercher à la banque postale, qui mettrait à disposition des petites cartes en fait qui contiendraient les euros numériques et qui pourraient être utilisées comme ça
sur
les paiements et qui seraient rechargeables comme ça.
Hugo Gold. Oui, déjà pour revenir un peu sur ce que vous disiez, c'est que c'est des moyennes les chiffres, mais si par exemple on prend les populations les plus précaires, elles utilisent plus de monnaie,
d'argent
de billets, d'argent liquide parce que les budgets sont plus faciles à suivre, parce qu'une partie d'entre elles n'ont pas accès à des comptes en banque. Donc ça, c'est très important de noter aussi que plus vous êtes pauvre, plus l'argent liquide est important pour vous. Et d'ailleurs, si vous prenez le cas de la Suède, qui était allée dans le tout numérique, en tout cas qui avait essayé, ils ont fait un recul par rapport à ça, justement, sur les populations précaires, les immigrés ou les personnes âgées.
Les malvoyants.
Ah oui, il y a de vrais avantages à l'argent numérique, parce que l'argent liquide peut être volé, peut être perdu. Ça coûte cher aussi. La Banque de France dépense beaucoup d'argent pour récupérer les pièces et les billets endommagés, les nettoyer, les réimprimer.
On a une... Sur la sécurité, là aussi, j'aurais des nuances. Le billet, c'est ce qui est le moins falsifiable. Oui. On a tous des fraudes à la carte bancaire. C'est pas parce que c'est dématérialisé que c'est plus sûr ou vous ne pouvez pas vous faire voler. Donc non, au contraire, nous, ce qu'on défend à la CGT, c'est que d'abord, le billet, c'est gratuit. C'est sûr parce que c'est quasiment infalsifiable. C'est inclusif parce qu'on parlait des précaires. Et enfin, sur tout ce qui est blanchiment, par exemple, on sait que ça passe d'abord par les comptes offshore. Et les comptes offshore,
c'est des
comptes à l'étranger pour cacher
dans
de l'argent.
Dans les paradis fiscaux.
Dans les paradis fiscaux, etc. Les masses sont énormes. Et là, c'est totalement dématérialisé. Donc, ce n'est pas via l'argent liquide qu'on a le plus de problèmes.
Non, mais là, peut-être une différence, c'est que les cartes bleues, souvent, ont des assurances. C'est tout à fait désagréable d'avoir une fraude sur sa carte bleue, mais il y a des formes de protection des consommateurs qui sont plus importantes que si on vous vole votre valise de billets où là vous n'avez aucune assurance dessus.
Alors déjà, je suis d'accord avec Jeanne Lazarus. Vous avez par exemple en Allemagne où les paiements liquides continuent à être très très importants.
Sans limitation.
Et sans limitation. En France, on est limité à 1 000 euros. En Allemagne,
ils voulaient limiter à 10 000. Et puis finalement, ils l'ont pas encore fait.
Ils ont fait marche arrière. Chaque fois qu'on touche à l'argent liquide en Allemagne, c'est un psychodrame. Quand il y a eu la disparition des billets de 500 euros, ça a été un psychodrame. Quand la BCE a proposé de supprimer les pièces de 1 à 2 centimes, pareil. Donc en Allemagne, on ne veut pas.
Alors, le liquide est sacré.
Voilà. Mais ça amène à des situations parfois très cocasses, si vous voulez. Par exemple, un retraité qui veut acheter sa voiture neuve avec sa valise de 20 000 euros en billets, puis qu'il oublie dans le bus et qui et ça arrive toujours en Allemagne, il y a toujours des
mais sur le blanchiment c'est pas forcément
et sur le blanchiment et bien sur le blanchiment l'Allemagne est très confrontée justement à ça du fait de l'utilisation du cash. On a parfois l'idée que le blanchiment ça se fait plutôt en Italie, vous voyez, dans les pays où il y a la mafia. Et bien en fait non, le gouvernement allemand a reconnu que c'était un problème très très important, avec pas loin de 100 milliards d'euros chaque année en Allemagne qui seraient blanchis, notamment via l'utilisation du cash. Ah oui. Et donc, si vous avez des monnaies numériques, alors là, je reviens à l'euro numérique, si vous avez un euro numérique, vous pouvez, tout en garantissant l'anonymat dans la vie quotidienne, avoir néanmoins, si vous avez la décision d'un juge ou d'une autorité judiciaire, une traçabilité des transactions qui peut être plus facilement établie que c'est le cas avec les billets, ou d'ailleurs, mais ce n'est pas une obligation, parce qu'avec les crypto-actifs, vous voyez bien qu'aujourd'hui, ça pose des tas de problèmes, parce que justement, il y a des crypto-actifs qui
c'est
sont
quoi, les crypto-actifs le
Bitcoin et compagnie.
Les crypto-monnaies.
Voilà, qui sont pensés pour être anonymes et donc qui facilitent les trafics. Donc la numérisation n'est pas une garantie absolue de conformité, si vous voulez, à l'état de droit.
Les personnes qui veulent blanchir leur argent n'utiliseront pas l'euro numérique. Donc, et c'est vraiment ce que vous venez de dire, l'argent électronique peut aussi servir à accélérer des transactions, à faire circuler l'argent vers des comptes offshore ou à le faire simplement aller tellement vite qu'il devient intraçable. Donc on a à la fois la capacité de tracer quand c'est enregistré par des données numériques, mais il y a tellement de transactions chaque jour, des milliards et des milliards de transactions partout dans le monde, que suivre les transactions, on le voit dans tous les films où on a des experts qui cherchent à suivre l'argent de quelqu'un qui de corruption ou autre, ça prend un temps fou de suivre de l'argent. Alors que faire passer des sommes à travers le monde en quelques secondes, ça on sait le faire. Donc il y a une forme d'illusion à penser que ça suffirait de passer au tout numérique pour qu'il n'y ait plus aucune chose illégale faite avec l'argent.
Sur le blanchiment, parce que c'est vraiment plus un élément de langage, à mon avis, qu'une réalité. Le montant, on est sur 15 milliards d'euros sur la fraude à la TVA, par exemple, qu'on a d'habitude qu'on assimile au cash, ça, si vous voulez lutter contre ça, il faut des inspecteurs du travail. Il ne faut pas supprimer la monnaie. Or, en ce moment, on supprime les postes d'inspecteurs du travail. Donc, et encore, je le redis, la fraude fiscale, c'est 100 milliards. Donc, si vous voulez aller chercher de l'argent, et ça, c'est des comptes dématérialisés. Ça, c'est le premier point. Et sur les libertés publiques, la traçabilité, c'est pour ça que c'est important de garder de la monnaie. En fait, même sans juge, aujourd'hui, on est inquiet parce que l'extrême droite peut arriver au pouvoir dans plein de pays. Aujourd'hui, si toutes nos transactions sont suivies matériellement par des comptes, même via l'euro numérique, un gouvernement d'extrême droite, il appuie sur un bouton, il a accès à tout. Il a accès à tout. Et si vous n'avez pas de cash qui vous permet de sortir de cette traçabilité, bah, ça veut dire que bah, voilà, vous êtes tracé complètement. Donc il y a un vrai enjeu de liberté publique et de liberté individuelle de laisser une économie avec du cash. Et encore plus dans le contexte actuel avec la montée des extrêmes droites partout.
Alors, oui, alors ça, c'est le mauvais côté, en effet. C'est que les banques veulent une disparition massive du cash parce que finalement, ça leur coûte. Déjà, ça leur coûte cher parce qu'il faut entretenir un réseau et donc on voit les distributeurs disparaître. Mais surtout parce que dès que vous passez en cash, en fait, vous passez en monnaie banque centrale. C'est-à-dire que vous sortez de la monnaie bancaire. Et donc, sur les transactions en billets, les banques n'imposent pas de frais de transaction. Ça leur échappe. Mmh. Elles peuvent en imposer au moment où vous allez les retirer, mais pas au moment où vous utilisez. Donc, ça, c'est la mauvaise raison, si vous voulez, qui conduirait à vouloir des paiements tout numériques. C'est que les banques ont aussi un intérêt pour être présentes sur chacune des opérations, sur chacune des transactions.
De retirer de l'argent et donc de pouvoir contrôler matériellement l'argent qui reste.
Avec des enveloppes.
Avec des enveloppes, vraiment comme on faisait jusqu'au début du XXe siècle, avec l'idée que c'est plus facile et puis que ça ne peut pas déborder. Mmh. Il n'empêche que on ne peut pas gérer son argent uniquement en liquide. Et donc une des difficultés, c'est que quel que soit le budget qu'on a,
la somme.
On a des prélèvements pour son loyer, pour la cantine, pour des tas de choses qui sont aujourd'hui, qui ne peuvent pas être dématérialisées. En revanche, ce qui est apparu depuis qu'on a ces fameux téléphones et toutes ces applications, ce sont des applications de gestion du budget et qui sont destinées à essayer d'aider les gens à reprendre une forme de maîtrise et à faire ces enveloppes de façon électronique.
Ce qui compte au-delà de la question de la forme monétaire, c'est la question de l'architecture du système monétaire. Les banques centrales veulent développer des monnaies numériques de banque centrale comme l'euro numérique, parce qu'en fait ce qui s'est passé, c'est que devant la montée en puissance des systèmes bancaires, la monnaie publique émise par les banques centrales est de moins en moins utilisée. Moi, j'ai pas tout à fait les mêmes craintes que Hugo. Je comprends bien qu'il y a des populations qui ont du mal avec le numérique, mais on peut aussi avoir des formes de monnaie numérique qui soient accessibles à tout le monde via des cartes, par exemple distribué par les banques postales. Et ça, si vous voulez, on pourrait aller jusqu'à une véritable révolution monétaire en permettant aux citoyens et aux entreprises d'avoir des comptes directement à la banque centrale. Et ça, c'est ce que les banques privées craignent beaucoup.
Jeanne Lazaru, un imaginaire qui disparaît.
Les billets, c'est un symbole très important des pays, de leur souveraineté. Ça avait été tout un débat quand l'euro a été lancé, parce que sur les billets d'euro, étant donné qu'on a plusieurs pays dans l'euro, on n'a pas pu mettre symbole par pays. Donc on a mis des bâtiments imaginaires, mais qui étaient, par exemple, qui rappelaient des bâtiments grecs, etc., pour symboliser une zone qui n'avait pas de symbole collectif. Et ça avait été d'ailleurs une source de grande critique en disant, voilà, c'est la preuve que cette monnaie n'est pas une vraie monnaie, etc. On a vu que cette monnaie a été tout à fait utilisée et que la confiance dans l'euro est tout aussi réelle qu'elle l'était dans le Deutschmark ou dans le franc.